Je réalise, chère madame, que ce sage était simplement intéressé par votre vaisseau. Lorsqu'il apprit qu'il était question de vous vendre plus tôt que prévu, il jugea préférable de simuler votre évasion en espérant vous forcer ensuite à le suivre jusqu'à votre navire volant. Puisque vous êtes une âme sensible, il comptait sans doute éliminer vos compagnons dans le cas où vous refuseriez de collaborer. Plutôt que de prendre le risque de vous enlever chez son ami Ali, ce sage que je qualifie de perfide, vous a aidé à fuir dans le simple but de vous tendre un piège en dehors d'Alexandrie. Selon vous, il s'intéressait vivement à notre science? Assurément. Je ne serais pas surpris qu'il détienne déjà votre vaisseau. Mais comme il ignore tout sur la technologie warsienne, il comptait sur vous pour lui en expliquer les principes. Pechel et sa compagne retournèrent auprès des autres captifs afin de les rassurer. Notre homme croyait fermement pouvoir les aider, mais il n'était plus certain s'il souhaitait voir ces gens-là se faire conduire en Amérique. En effet, ceux-ci parlaient de vengeance et même de torture qu'ils voulaient faire subir à leurs anciens maîtres pour en avoir tenté de les vendre comme esclaves. L'un des hommes fit même la promesse de revenir à Alexandrie à la tête d'une armée afin de massacrer tous les habitants de cette cité de malheur. Pechel les écoutait en secouant tristement la tête et remarqua le regard effrayé d'Etna. Pourquoi fallait-il absolument venger leur honneur en causant des malheurs en faisant encore plus de victimes? La jeune femme ne semblait pas comprendre la logique de ceux et celles qui rêvaient d'être libres afin de pouvoir se venger des humiliations qu'ils ont subies de la part de certains notables. Pechel avait le goût de leur dire, « Si votre honneur a été souillé, aidez ceux qui la perdront après vous, plutôt que de grossir la souillure de haine que je vois dans vos cœurs. » Il n'existait aucun propos pacifiste dans ces gens-là, et Pechel préféra s'éloigner de nouveau avec sa compagne en leur disant froidement, « Les sages vont bientôt se rassembler pour la méditation, et vous devriez en faire autant pendant que j'irai chercher de quoi manger. » « N'oubliez surtout pas le vin, lui répondit un homme, avant de reprendre sa conversation avec les autres. Nos deux amis arrivèrent à la bibliothèque en sortant d'un faux mur dissimulé derrière deux hautes étagères remplies de parchemins. Ils traversèrent prudemment un long corridor éclairé par des cierges juchés sur des piédestaux en marbre et entrèrent secrètement dans la résidence des sages. Ils les trouvèrent déjà assis en cercle et en pleine méditation. C'était du moins le cas pour certains d'entre eux, puisque d'autres sommeillaient en se balançant dangereusement par devant et de côté. Caché derrière une colonne avec son compagnon, Etna lui serra vivement la main lorsqu'elle vit entrer le doyen de la bibliothèque. Pechel comprit que c'était lui, ce sage, qui se faisait passer pour Angora. Celui-ci semblait d'ailleurs de fort mauvaise humeur en s'adressant au sage pacifique. « Écoutez-moi bien, » dit-il en tentant de contenir sa colère. « Vous méditez pendant que je cherche à vous défendre contre l'opinion publique. La fuite d'un groupe d'esclaves fait jaser énormément, surtout la disparition de votre protégé. Croyez-vous que l'État voudra dorénavant vous entretenir depuis qu'on vous accuse de l'avoir aidé à fuir? « Alors nous irons enseigner au désert, » lui répondit froidement le sage Angora. « Et moi, croyez-vous que j'ai passé autant d'années à étudier pour aller enseigner au vent du désert? » « Le vent finit toujours par se calmer, mon cher Xerophobia, mais je n'ai encore jamais vu les violents de cette cité en faire autant, » lui répondit Samyose. « Si personne ne semble désirer véritablement écouter nos enseignements, je n'aurai absolument aucun regret de quitter Alexandrie si les notables s'imaginent que nous vivons à leur charge. » « Au désert, » enchérit Pelikos, en se redressant lourdement à cause de son gros ventre. « Le vent souffle le sable dans vos yeux, et c'est normal de vouloir s'en protéger en portant un voile. Mais toi, pauvre ami, tu as laissé la poussière des vanités d'Alexandrie t'aveugler complètement. Tu devrais te fermer un moment les yeux pour réaliser que ce vent de la gloire et du pouvoir est comme du sable, qui ne vaut rien après tout. » Le doyen pointa tous les sages d'un doigt réprobateur avant de sortir en furie de la pièce. Après son départ, Pechel sortit timidement de sa cachette en tenant la main de sa complice. Les maîtres firent un large sourire à la jeune femme avant de faire signe à son compagnon de se taire. Angora sortit un moment de la salle pour ensuite y revenir en disant d'une voix rassurante, « Ça va, il est parti pour le moment, tout de même, Mélios. Tu ne devrais pas être ici à moins que tu aies quelque chose d'important à nous dire. » « C'est vraiment important, lui répondit son protégé avant de lui présenter sa compagne. » Péchel leur fit le récit complet des mésaventures d'Etna, pour voir alors les sages secouer tristement la tête. « Zérophobia est vraiment obsédé par l'astronomie, lui dit le maître Samios, en soupirant. « Mais qu'il se serve du nom de l'un d'entre nous pour tromper Etna est vraiment déplorable, je l'avoue. » Il s'est cru autorisé à s'approprier une science qui ne lui appartenait pas, et c'est cela qui lui fait perdre sa noblesse de savant et de sage, dit tristement Pelucos. Croyez-vous qu'il aurait osé torturer les autres esclaves pour forcer Etna à lui révéler le contenu de ses connaissances? Demanda Péchel sans hésiter. Je ne sais pas s'il aurait osé aller jusque-là, Mélios. Je ne sais pas, je ne sais plus, répondit Angora. Quoi qu'il en soit, Zérophobia n'a pas agi en sage, mais plutôt comme un manipulateur, un profiteur et un tyran. Il faut lui révéler ce que nous savons, mais pas avant que tu sois en sécurité avec tes amis. Je ne peux quitter Alexandrie avant d'avoir accompli ma mission, lui répondit son protégé. Je pense pouvoir découvrir le miroir de vérité d'ici quelques jours. Je ne peux vous en dire davantage pour le moment. Péchel et la jolie Ouartienne attendirent le départ des sages, avant d'emporter un peu de nourriture et du vin dans les souterrains. Ils prirent vraiment leur temps avant de rejoindre les autres, en s'arrêtant ici et là pour s'embrasser. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'ils arrivèrent dans la crypte, et pour y voir leurs compagnons et compagnes serrés les uns contre les autres, comme s'ils s'étaient endormis. Des larmes s'écoulèrent sur les joues de nos amis lorsqu'ils comprirent que celui-ci venait de se suicider après avoir consommé un puissant poison que l'un d'eux avait conservé dans le cas où les choses tourneraient mal. Sur le mur situé derrière eux était inscrite cette phrase que Péchel n'oublierait jamais. « Adieu, traître ». Traître, gémit notre homme en pleurant en chaudes larmes. « Pourquoi m'accuse-t-il de ce nom puisque je voulais les aider ?» Etna, toi qui es encore plus sensible que moi pour percer les sentiments humains, dis-moi si nous avons eu tort de nous absenter aussi longtemps. Il ne croyait pas en toi, mon pauvre amour. Ne me demande pas si nous avons fait bien en nous attardant aussi longtemps, car je ne regrette rien. Mais nous avons fait l'amour. Est-ce monstrueux de nous être aimés? Non, c'était merveilleux, Mélios, mon amour, mais je pense qu'ils ont perçu notre longue absence de mauvaise augure. Ils ont cru qu'on reviendrait en compagnie de soldats. Je ne sais pas si j'ai raison, mais ils ont eu peur. Ils se sont suicidés alors qu'on faisait l'amour, gémit Péchel en pleurant. Notre homme était inconsolable. Il faut avouer que même s'il n'était pas responsable de ce drame, qu'il en éprouvait un terrible sentiment de culpabilité. Etna le laissa pleurer sur son épaule, en lui répétant inlassablement, « Tu ne pouvais savoir ce qui arriverait, mon amour. » Les heures passèrent, et avec elles s'atténua la vive douleur qui pressait le cœur de ce pauvre homme. Sa compagne parvint à le convaincre d'enterrer ses anciens compagnons et compagnes, avant que leur odeur nauséabonde remonte jusqu'à la bibliothèque. Péchel traîna donc les corps vers une sorte de fausse grotte, ayant légèrement la forme d'un croissant, et y rangea les cadavres en les plaçant côte à côte. Puisqu'il ne pouvait creuser dans le sol aussi dur que du roc, il voulut donc murer ce caveau en se servant des nombreuses pierres qui jonçaient l'intérieur d'une autre galerie. Celle-ci se trouvait exactement sous le temple du dieu Serapis, mais Péchel était encore trop troublé par les événements pour le réaliser. En réalité, notre homme venait simplement de découvrir l'ancienne tombe de la prêtresse Orpha Sitora. En effet, sa dépouille reposait sous un amas de pierres dont l'aspect général donnait l'impression d'une pyramide qui se serait écroulée avec le temps. Tout à coup, il retira une pierre sous laquelle se trouvait le crâne d'une femme. péchait, s'agenouilla lentement et le caressa paternellement, en pleurant de nouveau. On aurait dit qu'il savait, intuitivement, que c'était celui de sa fille. Etna vint s'agenouiller près de lui en silence. « Tu vois, Etna, » lui dit son amoureux en serrant le crâne sur son cœur, « je ne savais même pas que j'avais une fille en arrivant en Alexandrie. Ce sont les sages qui me l'ont révélé à mon grand étonnement. C'est ainsi lorsqu'on passe sa vie à voyager dans le temps. Je ne devrais pas pleurer, ma fille, puisque je la reverrai un jour dans une autre époque. Mais vois-tu, c'est le ridicule de tel voyage dans l'intemporel, lorsqu'on en vient à pleurer son enfant qui n'est pas encore né dans une autre de mes aventures. C'est cela l'aspect le plus désagréable de ces voyages, qui me projette telle une balle dans différentes époques, qui ne se suivent même pas, chronologiquement parlant. Celui ou celle qui aimerait m'envier, je pourrais lui demander si c'est vraiment la belle vie que de pouvoir vivre, par exemple, dans une cité ultramoderne, pour ensuite se retrouver à une époque où on ignore encore le principe de l'électricité. Sais-tu que ce que j'ai fait le premier soir de mon arrivée à Alexandrie? J'ai claqué les doigts en entrant dans ma chambre, en m'imaginant que la lumière s'y ferait, comme c'était le cas, dans la cité du futur. J'ai vite réalisé qu'il existait pas mal d'années à faire avant que l'homme invente l'électricité, et par conséquent, je me suis résigné à allumer la pauvre chandelle qui se trouvait sur ma table de nuit. Vous, les Ouartiens, dites ne pas vouloir intervenir dans l'évolution des terriens en demeurant simplement caché. Pouvez-vous imaginer ce que je dois vivre en cherchant à m'adapter au style de vie des différentes époques que je dois habiter pour un certain temps? Comme vous, je ne suis pas autorisé à intervenir comme j'ai osé le faire au temps de l'homme de Néandertal. J'ai cru bien faire en réalisant une charrette munie de deux roues, mais les membres de la tribu néandertalienne fixèrent celle-ci d'un air apeuré. Sans le vouloir, j'avais profané un symbole sacré en utilisant une forme solaire pour faire rouler ma charrette. Pour eux, imiter volontairement la forme du soleil était grave. Selon toi, lui demanda la femme, l'homme s'est servi de la roue lorsqu'il comprit que le soleil n'était pas une divinité. D'un point de vue scientifique, je dirais qu'il a simplement réalisé l'avantage de la roue pour l'adapter ensuite à ses besoins. Mais du temps de l'homme des cavernes, on vivait si près de la nature qu'il fallait beaucoup d'humilité pour accepter de ne rien changer à l'état des choses. La forme solaire régnait dans le ciel et tout ce qui rappelait donc sa forme devait également appartenir au soleil et non aux hommes. Ainsi, un roulement de pierre dans une pente ou même un sillon dans l'eau témoignait en faveur d'une divinité établie dans le ciel et sur terre. Péchel déposa délicatement le crâne près de lui avant d'informer sa compagne qu'elle verrait bientôt le miroir de vérité. « C'est quoi au juste ce miroir de vérité ?» lui demanda-t-elle d'une voix amusée. « C'est un miroir aussi noir que l'ardoise et qui permet à celui qui se regarde de voir sa véritable nature. Il possède d'autres attributs comme celui d'ouvrir deux dimensions ou de placer deux époques face à face. » Ce miroir est l'invention d'un maître atlante qui avait pour nom Anakilémon. Il fabriqua un gros coffre sur roue dans lequel il dissimula ce miroir. J'ai hérité de ce coffre dans l'une de mes aventures au Moyen Âge, mais le miroir ne s'y trouvait plus. Je pense que ce sont les survivants atlantes qui l'emportèrent avec eux dans un étrange couloir ressemblant sensiblement à celui de l'intemporel. Il est évident qu'il le confièrent un jour à Orphacitora, mais comme je ne connais pas sa vie, je perdrai mon temps à prouver qu'une colonie atlante s'était établie en Égypte il y a des centaines d'années de cela. En ce qui me concerne, ce miroir m'était destiné pour me permettre d'accomplir ma mission à Alexandrie. Tu parles de missions que tu as accomplies dans différentes époques. « Mais qui te les confie exactement ?» lui demanda la femme en l'aidant à dégager les pierres. « Ce sont de puissants maîtres d'une planète aujourd'hui disparue. Je pense qu'elle s'appelait Arcara et qu'elle se trouvait dans la constellation d'Orion. Mes guides de l'invisible se contentent d'intervenir dans mes missions sans toutefois m'indiquer à l'avance ce que je devrais accomplir pour les mener à bien. Tu veux dire que tu ignores même le contenu de celle-ci ?» C'est un peu cela. lorsque j'arrive dans une époque, tu vois, il va sans dire que ce n'est pas moi qui l'a choisi, et encore moins qui sait pourquoi je dois y être. Il se produit alors des événements auxquels j'y suis mêlé malgré moi, afin que je sois disposé à accomplir ma mission. Tu vois, tantôt nous avons découvert nos amis endormis pour l'éternité, et en même temps, je me suis retrouvé dans une situation où je devais absolument trouver des pierres. Sans le savoir, j'ai mis à jour la tombe de la prêtresse, et ce, sans que je la recherche encore. Tout de même, avoue que tu connaissais au moins l'existence de cette prêtresse et du miroir de vérité. Non, ce sont les sages qui me l'ont dit, et non mes maîtres de l'invisible. En arrivant à Alexandrie, je savais simplement que j'allais devoir y accomplir une mission inconnue. Puis entre nous, comme j'ai découvert la tombe de ma fille dont j'ignorais jusqu'alors l'existence, j'obtiendrai bientôt ce miroir fantastique, mais ensuite, peux-tu me dire ce que j'en ferai? J'avoue l'ignorer, mais tu dois t'en douter, n'est-ce pas? Par habitude, j'évite de spéculer sur les intentions de mes maîtres. Une chose est toutefois certaine, je sais que je dois aider mon double et surtout que ce miroir m'aidera à cet effet. Donc il me faut d'abord cet objet et ensuite, nous verrons bien ce qui arrivera. Ce n'est qu'après avoir déplacé toutes les pierres et rangé avec respect les os de la prêtresse dans un autre coin de cette galerie que le couple entreprit cette délicate tâche de déterrer le miroir. Il était évidemment enfoui sous une couche de terre rouge, mais encore fallait-il savoir le déloger sans le briser. En deux mots, il n'était pas question de creuser dans cette glaise en se servant d'un objet pointu. Notre homme dit alors à sa compagne, « Cette glaise est vraiment dure, et nous allons devoir la ramollir avant de creuser avec nos mains. Nous n'avons pas d'eau, mais du vin. » « Allons-y donc pour le vin, » soupira Pêchel d'une voix attristée. « Il sent vraiment bon ce vin-là, » lui dit-elle d'une voix espiègle, avant d'en verser lentement sur la glaise. « Je t'en prie, ne te moque pas de moi, ma bien-aimée. Cela me fait déjà beaucoup de peine de te voir le vider, sans me darder au cœur en me rappelant sa douce odeur fruitier. » Etna se mit à rire de bon cœur, tout comme son amoureux. Une fois que le vin imbiba le sol, nos amis se relevèrent les manches pour jouer dans cette boue rougeâtre. Cela n'était pas du tout désagréable, pas plus que de se mettre les mains à la pâte en tout cas. Pêchel avait même envie de faire des châteaux de boue, mais le temps lui manquait sans doute, et surtout des chaudières. Après quelques minutes, leurs mains caressèrent une surface lisse et noire. Ils dégagèrent prudemment l'objet qui pouvait avoir environ 1 mètre de longueur par 1 de largeur. Le miroir était aussi mince qu'une feuille de papier et surtout très léger. Pêchel le déposa sur ses genoux après s'être croisé les jambes et demanda à sa compagne de s'asseoir près de lui. Notre homme sourit en voyant apparaître sur la surface noire un jeune adolescent qui polissait une jolie pierre. « Qui est-ce ?» lui demanda aussitôt Etna d'un air étonné. « Je pense que c'est moi, mais dans une autre dimension. Mes souvenirs refusent de jaillir dans ma mémoire, mais une chaleur intérieure me dit que cet enfant est celui que j'étais sur une autre planète. »« Arcara ?»« Probablement. »« Oh, tu viens de disparaître. Une autre image apparaît, je pense que c'est moi. » voilà à quoi ressemblent les Warciens, n'est-ce pas? Ce miroir te montre ta véritable nature et non ce que tu es devenu suite à des manipulations génétiques. Oui, c'est exactement cela que ressemblent les gens de notre race. Je trouve que vous avez de très grands yeux. Est-ce pour mieux voir? Disons que sur Terre de tels yeux existent, puisque vous n'avez qu'à examiner une fourmi pour en trouver un simple exemple. Comme tu sembles ne pas désirer m'en dire davantage sur vos yeux de fourmi, pourquoi avez-vous de si petites bouches? Une bouche sert à manger et à parler, n'est-ce pas? Bon, disons que je comprends que vous ne parlez pas et ne mangez pas alors. Nous parlons mentalement et nous consommons uniquement de la nourriture liquide. D'accord, mais pourquoi n'avez-vous pas d'oreilles? Nous entendons fort bien, même si nous avons de toutes petites cavités auditives. Je te taquinais, voyons. Tout de même, je dois sûrement posséder des origines warciennes, puisque vous êtes chauve comme moi. Heureusement que l'image disparut avant que notre homme lui pose encore toutes sortes de questions concernant l'anatomie des warciens. Il apparut ensuite un étrange décor faisant songer à une pluie torrentielle dans une forêt tropicale. C'était plutôt des fougères géantes qui étouffaient le reste de la végétation. Puis nos amis virent la carcasse d'un prontosaure entièrement décharné et recouvert d'un genre de tapis fabriqué avec des algues séchées. Un homme sortit du ventre de sa maison improvisée afin de regarder rapidement un coin du ciel. Il se fit aussitôt rejoindre par un chien qui jappa joyeusement en examinant un coin de nuage vraiment bizarre. En effet, il semblait passer devant une fenêtre du ciel. Celle-ci n'était nulle autre que le miroir de vérité. Ainsi, Méléos vit son double à l'époque des dinosaures. Méléus dit alors à son chien excité, « Il est enfin là, mon cher Bacchus. Je savais bien que ma fille Abella parviendrait à lui indiquer que j'avais besoin de son aide. Oh là, mon double, est-ce que tu me vois ?»« Sacré nom d'un chien, on dirait bien qu'il me voit !» s'exclama Méléos en examinant son double lui faire des signes de la main. « Je ne te vois pas, mais je t'entends parfaitement. Écoute, j'ignore combien de temps ce miroir peut nous permettre de nous parler en projetant nos deux époques sur ces surfaces intemporelles. Alors, il faut faire vite en acceptant de prendre l'œuf qui contient le premier gène humanoïde de cette planète. »« C'est l'œuf des races, lui demanda l'autre. Si tu veux. Mais je ne peux le protéger contre les singes féroces qui voudraient l'empêcher d'éclore afin d'être les seuls dans la course de l'évolution des espèces animales. Que faut-il que je fasse, mon pauvre moi-même? Il faut le cacher et le couver encore pendant 1000 ans. Ensuite, il faudra le retourner dans le couloir de l'intemporel qui le ramènera après la fin des dinosaures et des périodes glaciaires. Il pourra alors éclore à l'époque du berceau de l'humanité. Les dinosaures ne viennent pas sur mon île. Ce n'est pas le cas de Bananus et de ses confrères, qui ne sont pas tout à fait des singes, mais des hommes-singes, sans grande intelligence et sans conscience. J'ai bien peur qu'ils soient mordus à un coin de l'œuf, sans toutefois parvenir à le briser, avant que je les chasse avec Bacchus et un oiseau de proie que j'ai apprivoisé. Si leur salive s'est mêlée aux gènes contenus dans l'œuf, nos scientifiques sauront finalement pourquoi les hommes sont parfois féroces entre eux. Ces damnés singes obéissent à une guenon et à son compagnon que j'ai surnommé Bananus pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les bananes. Oh, c'est préférable de ne pas insister sur l'image qui me vient à l'esprit en ce moment, dit Méléos en riant. Mais entre nous, comment dois-je m'y prendre pour obtenir cet œuf? C'est simple, il faut venir le chercher. À pied, sans doute. Non, il te suffit d'introduire ta main dans le miroir et le tour sera joué. Méléos vit son double entrer rapidement dans sa maison improvisée dans le ventre d'un brontosaure et en sortit aussitôt après en tenant un gros œuf enveloppé dans une feuille géante. Il le tendit à son jumeau en disant, « Le voici, mon double. Vite, j'entends déjà des froissements de feuilles dans la forêt qui m'indiquent que ces singes de malheur se rapprochent de nouveau. » « Voilà, lui répondit le missionnaire en introduisant son bras dans le miroir magique pour voir son double lui déposer l'œuf dans la main. « Que feras-tu à présent, mon cher Méléus? »« J'ai encore quelques années à attendre ici avant que le couloir apparaisse de nouveau devant moi. Je vais sûrement le prendre cette fois-ci, puisque je n'aurai plus rien à craindre pour cet œuf. Ma compagne est décédée depuis déjà 5 ans, et donc je ressens ce lourd fardeau psychologique. » de me savoir le seul humain dans ce monde de dinosaures. Je vais donc en profiter pour tenter d'éduquer ces singes, même si j'ai peu d'espoir d'y parvenir un jour. » Dès que Méléos sortit l'œuf du miroir, l'image de son jumeau s'évapora et aucune projection apparut sur ce verre étrange. Etna serra l'œuf sur sa poitrine pour la réchauffer. Son compagnon lui dit en souriant, « Je te trouve très maternel, sais-tu ? Cela me rend vraiment ému à chaque fois que je vois ce geste affectueux entre une mère et son enfant qu'elle réchauffe sur ses seins. C'est dommage que l'homme oublie rapidement ce geste d'amour, puisque c'est ainsi que je me représente cette mère nature envers la race humaine. On dirait que tu es triste, mon amour. C'est parce que je sais que des milliards d'humains naîtront grâce à cet œuf que tu caresses avec amour. On entendra des cris de souffrance à travers les siècles, dès que la race humaine devra exister dans le plan de la vie. Il ne faut pas y songer, même si je ressens les mêmes émotions en le tenant sur mon ventre. Je perçois également des rires, des joies et des bonheurs qui n'existeraient pas dans l'histoire de la vie si cet œuf venait à disparaître. La jolie Ouartienne se leva en serrant toujours son précieux trésor, qu'elle défendrait d'ailleurs contre le monde entier. C'était ridicule de vouloir le protéger avec autant de soin, puisque logiquement celui-ci ne risquait rien, du fait que la race humaine existait déjà. Donc, ce don du dieu Eros allait sûrement éclore un jour, ce qui n'empêchait pas Etna de l'aimer un certain temps, comme son propre enfant. Pêchel se leva à son tour et enterra tous les os de la prêtresse, sa fille, et referma également le mur derrière lequel se trouvaient les corps des anciens esclaves. Il fit ce travail tout seul, puisque sa compagne berçait l'œuf magique en se promenant dans la galerie. Une fois son travail terminé, notre homme demanda à Etna de l'accompagner jusqu'à la résidence des sages, afin de leur offrir le miroir de vérité. Ils attendirent jusqu'à la nuit avant de remonter à la bibliothèque où Jérémie était déjà en demeurant caché derrière un mur. Dès qu'il les aperçut, le pauvre clochard vint à eux en marchant difficilement. Mais Léos, lui dit le mendiant en serrant sur son ventre ses mains recouvertes de sang, « Les sages ont quitté Alexandrie ce soir, entourés de plusieurs soldats. » J'ai voulu m'approcher d'eux pour savoir où le chef de la garde voulait les conduire, mais un inconnu m'a enfoncé un glaive dans le ventre. Jérémie, non pas toi, gémit aussitôt Pêchel en voyant son ami s'effondrer sur le sol. Je me rappelle encore de la chanson des éléphants, lui murmura le mourant dès que le missionnaire s'agenouilla près de lui en pleurant. Il ne faut pas verser de larmes, mon bon Méléos. « Je vais enfin cesser de souffrir les humiliations des notables de Bruchium. Je t'aime bien, tu sais. » Pêchel lui prit la main pendant que le pauvre homme se mirait dans le miroir qui se trouvait près de lui. Jérémie découvrit sa véritable nature en examinant une parcelle de lumière inconnue, tout comme il le fut lui-même dans le monde. Celle-ci s'éloigna lentement au fond du miroir en lui disant amicalement, « Bien, nous avons d'autres mondes à découvrir. » Jérémie mourut paisiblement et sans aucun regret. Nous ne saurons jamais qui était cette lumière étrange qui accompagna son âme dans l'au-delà. Du moins, nous l'apprendrons lorsque nous quitterons également notre corps. Pêchel cessa de pleurer, puisqu'il connaissait trop bien les misères de son ami pour souhaiter le voir vivre encore plusieurs années à Alexandrie. Jérémie ne fut pas toujours pauvre, et loin de là d'ailleurs. C'était un homme extrêmement prospère avant qu'il délaisse sa fortune et son prestige. En effet, Jérémie fut déjà l'un des plus importants marchands d'esclaves de la cité, jusqu'au jour où, saisi d'une étrange compassion envers un groupe d'esclaves qui lui rappelait un troupeau de brebis, il décida de les libérer pour ensuite donner tous ses biens aux pauvres. Il faut dire qu'il prit conscience de la valeur humaine et du vide intérieur de la majorité des notables de la place. Il quitta donc sa luxueuse demeure du quartier de Bruchium pour mendier dans celui de Rakotis. Les riches le prirent évidemment pour un cinglé, car comment expliquer autrement qu'un notable puisse désirer se mettre au même rang que les mendiants alors qu'il y a plus de satisfaction à vivre dans l'abondance que de la misère? On s'amusa donc à l'humilier souvent, en lui crachant la figure. Mais le mendiant souriait à chaque fois en disant calmement, « Ton crachat, c'est du moins quelque chose que tu donnes gratuitement. » Pêchel et Etna ne savaient vraiment plus comment échapper au puissant tyran d'Alexandrie. La Wersienne cherchait à retenir ses larmes en fixant cet œuf qui risquait de se faire détruire si on venait également les arrêter. Il fallait fuir cette cité au plus vite, mais nos deux amis n'osaient calculer leurs chances de réussite. Notre homme qui transportait un miroir et cette femme qui les suivait en tenant un œuf déambulaient les longs corridors de la bibliothèque en espérant ne pas y faire de mauvaises rencontres. Péchel trouva tout de même le moyen de faire rire sa compagne en lui disant ironiquement « Sais-tu qu'on aurait de quoi se faire un œuf au miroir ?» Alors que nos amis cherchaient à quitter la bibliothèque, deux hommes armés de glaives se dressèrent subitement devant eux d'un air menaçant. Péchel reconnut aussitôt le faux mage, accompagné par le messager, qui était évidemment son complice. « Allons, vous n'aviez pas l'intention de nous fausser compagnie en pleine nuit ?» leur demanda le charlatan en souriant. « Je pense que vous possédez encore cette bourse de 1000 pièces d'or que vous m'aviez remis avant que votre fidèle Mélios ne me frappe, n'est-ce pas ?»« Si je vous la donne, lui répondit la pauvre femme apeurée, vous allez nous laisser partir ?»« Sûrement, ma petite biche, lui dit cet homme sans attendre. De toute manière, il faudrait bien que je la redonne au maître Angora avant qu'il s'imagine que je lui ai volé celle-ci. « Menteur, lui répondit Péchel sans attendre. « Oh, je pense, mal expliqué, dit le sage en esquivant un sourire. Cette bourse appartient à Zérophobia, mais celui-ci l'a généreusement offerte à Angora pour qu'il puisse vous la faire parvenir par l'entremise du messager. Comme je tiens tout de même à me faire payer pour mon travail que votre idiot de compagnon a compromis en m'empêchant de vous faire sortir d'Alexandrie, il me faut cette bourse, n'est-ce pas ? De nouveau, le missionnaire lui dit, « Menteur ! Crois-tu que j'ignore qui tu es exactement, mon cher hypocrite ? Si tu retires ta fausse barbe et tes faux sourcils, je pense que tu auras un petit air de ressemblance avec le doyen de la bibliothèque. » Péchel lui arracha la barbe d'un geste rapide et la jeta sur le plancher en reculant avec sa compagne. « Oh, tu n'aurais pas dû faire cela, mon pauvre crétin. À présent que tu m'as reconnu, je vais devoir te faire disparaître avant que tu me causes d'autres ennuis. En ce qui concerne ta compagne, je pense qu'elle acceptera docilement de m'enseigner l'art de voyager dans le ciel avec son étrange char volant que j'ai fait camoufler pour le soustraire à la vue des curieux. Jamais je ne pourrai utiliser mon vaisseau si mon ordinateur est brisé, lui répondit crétinement la Wersienne. Vous parlez de cette grosse boîte ressemblant à un miroir? Oui, est-il brisé ou non? Vous cherchez à me tromper, ma biche. Je ne vois pas comment un simple morceau de verre brisé pourra empêcher cet étrange oiseau de s'envoler. Etna, lui cria son amoureux en plaçant son miroir devant lui, cache-toi vite derrière moi. La Wersienne s'exécuta rapidement alors que Zérophobia et son complice crurent pouvoir introduire leur glaive dans le ventre de Péchel. Ils reculèrent en tremblant de peur dès qu'ils virent leurs armes se faire tout simplement gober par le miroir et sans pouvoir faire le moindre mal à notre héros. Le doyen qui fixait l'étrange objet vit alors une grosse punaise verte apparaître sur le miroir. « Regarde-toi, mon vieux fou, lui cria Péchel sans attendre, c'est ta véritable nature que tu vois sur mon miroir magique. Non, je suis un savant, et non cette sale punaise. Je regrette de devoir te dire que ce miroir est celui de vivre des vérités, et donc, qu'il ne me trompe pas, tu es cette grosse punaise qui a cru aux vaines gloires des puissants d'Alexandrie. Tu ne vois pas qu'il te considère au même rang que cette pauvre punaise ?» « Toi, regarde-toi à ton tour !» cria le doyen en poussant son complice devant le miroir. « Mais qu'est-ce que je vois là ?» s'insulta Zérophobia en voyant la véritable nature de son complice. « Pourquoi possède-t-il les traits d'un enfant au visage couvert de sang ?»« Mais parce que ton complice est un enfant battu, qui t'obéit par la peur et non par plaisir. » « C'est sa nature réelle que tu vois là !» lui répondit Mélias en regardant le jeune homme d'un air complaisant. Alors le messager se plaça les mains devant son visage avant de sangloter comme un enfant. Il cria du fond du cœur au doyen étonné par ses réactions. « Avez-vous fini de me faire accomplir vos sales besognes, vous et tous ces notables de Bruchium ? Il recula lorsque Zérophobia tenta de les saisir par le collet de cette tunique, dans le but de le corriger. Le jeune homme évita ses bras et repoussa son maître sans attendre. L'autre recula rapidement pour alors entrer accidentellement dans le miroir. Mélios, Etna et même le messager se regardèrent d'un air déconcerté. Vraiment, personne n'aurait prévu voir le doyen terminer sa vie dans un miroir, et surtout qu'il y soit envoyé par son propre complice. « Je vous en prie, gémit le messager d'une voix désespérée, laissez-moi me racheter à présent, que j'ai compris quelle était ma véritable nature. » « Et Batlaïs, mon ami, lui répondit le missionnaire d'une voix rassurée, « tu peux nous aider à fuir Alexandrie, ou encore nous trahir, puisque notre sort dépendra de ta bonne ou mauvaise intention. « Je vais vous faire sortir de la cité et vous conduire auprès des sages, qui ne vivent pas en captivité, mais simplement au désert pour un certain temps. » Ainsi, il ne risque aucune lourde sentence pour m'avoir protégé, lui demanda le voyageur de l'intemporel d'une voix soulagée. Je ne pense pas que les notables voudraient leur faire le moindre mal. Ils désirent simplement se donner bonne conscience en interdisant aux sages de reprendre leurs fonctions habituelles pour un certain temps. De toute manière, j'ai l'intention de les innocenter en dénonçant le complot de Zérophobia pour faire évader les esclaves du maître Ali. « Tu n'es pas sérieux, c'est la mort qui t'attend si tu fais cela, » lui répondit Etna d'une voix troublée. « Je le sais fort bien, puisque je n'irai pas avoir été son complice dans cette histoire d'évasion. Mais je ne crains pas d'affronter mes juges à présent que je n'ai plus l'intention de me laisser manipuler par les notables de cette ville. Les sages pourront retourner rapidement à la bibliothèque du fait que ce procès ne durera pas plus d'une journée. » On préférera un coupable de faible rang social comme moi pour satisfaire leur justice. Tu pourrais toujours fuir avec nous, lui suggéra Mélios. Non, les sages perdront leur crédibilité si de mauvaises langues prétendent qu'ils ont un lien avec l'évasion des esclaves. Je dois absolument leur rendre justice en racontant la vérité. Évacès demanda au missionnaire de mettre la fausse barbe de son ancien maître et à Etna de dissimuler son œuf dans un linge pour laisser croire aux gardes qu'elle tient simplement son enfant dans ses bras. Puis il lui recouvrit les épaules de sa mante munie de capuchon. « Bon, vous êtes à présent ma sœur, accompagnée par son époux et son jeune enfant, » leur dit le jeune homme en souriant. « Si quelqu'un me pose des questions, je dirai que je vous accompagne jusqu'au Caire. » « Je commence à te trouver très sympathique, » lui dit Mélios en souriant. « Il faut partir à présent, et surtout avant le petit jour, » se contenta de répondre le messager. Tout se passa merveilleusement bien, puisque le messager était tellement détesté par les soldats à cause de ses nombreuses dénonciations qu'ils le laissèrent sortir de la ville sans lui poser la moindre question sur le couple qui l'accompagnait. Comment aurait-il pu s'imaginer que cette vipère puisse à présent aider deux esclaves à fuir à Alexandrie? Nos amis arrivèrent sur un plateau au moment où le soleil était déjà haut dans le ciel. Dans ce lieu quasi désertique se dressaient les ruines d'un ancien temple dédié jadis à la déesse Athéna. On ne sait exactement comment celui-ci fut détruit, sauf qu'il n'y restait plus que quelques colonnes et un amas de grosses pierres. Les sages avaient fait un petit feu devant les ruines et faisaient cuire quelques poissons. Mélios s'approcha lentement en retirant sa fausse barbe et leur dit joyeusement, « Avoir su, je vous aurais apporté des brochettes de poulet. »« Des quoi ?» lui demanda Angora avant de le serrer dans ses bras. « Je pense que j'ai un présent qui va vous réjouir, mes bons maîtres pacifiques. » « Le miroir de vérité !» s'exclamèrent ceux-ci comme des jeunes enfants excités par des étrennes. Nous en sommes vraiment émus, s'empressa de lui dire Pelucose, en caressant le miroir et fixant ensuite Etna et Batlaïs s'approcher à petits pas. « Je pense que votre messager n'est pas un mauvais homme, après tout, » lui dit Péchel en souriant. « Vous aviez raison, maître Pelucose, de me trouver vraiment trop sévère en jugeant l'humanité. » Sans lui, nous serions peut-être morts, vous savez. Les maîtres accueillirent Évatlès à bras ouverts et lui offrirent un bain de charité humaine avant de lui pardonner toutes ses erreurs passées. Péchel attira le maître Samios à l'écart, afin de lui faire part de ses craintes concernant le sort qui sera réservé au messager, lorsqu'il aura dénoncé les agissements de Zérophobia. « Ne t'inquiète pas pour lui, » répondit le sage en souriant. « Si ses juges décident de le faire mourir, ils devront également nous réserver le même sort, puisque nous n'enseignerons jamais plus à la bibliothèque si on nous retire notre messager. » « Mon cœur me dit que vous y parviendrez, et cela me réjouit, » lui répondit son protégé. « Oui, j'éprouve le même sentiment. Cela me peine cependant de savoir que notre doyen a disparu pour toujours dans le miroir de vérité. Il est encore vivant, mais quelque part, entre deux époques. Puis-je vous demander pourquoi les sages désirent ce miroir magique exactement? Mais voyons, Méléos, nous ne voulions pas de ces miroirs de vérité, mais simplement t'inciter à le rechercher pour accomplir ta mission. Nous savons qu'elle est terminée après Alexandrie, puisque c'est bien l'œuvre d'Eros que ta compagne tient dans ses bras. C'était cela ta mission. Le missionnaire lui répondit en souriant. « Oui, maître, mais il faudrait le couver encore 1000 ans avant de le retourner dans le couloir intemporel, et moi, je ne suis pas une poule. » « Nous savions cela, mon brave ami. La prêtresse Orphacitora dit dans son manuscrit que notre tâche serait de t'inciter à rechercher ce miroir qui permettra à son père, Mélius, de te confier l'œuf du dieu Eros. Je pense qu'il pouvait vraiment voir les événements futurs lorsqu'il ajouta que ce sont les Elohim qui le protégeront au sommet de l'Himalaya. Oh, c'est fantastique! Elle avait donc prévu que je rencontrerais une jolie Warsienne au cours de ma mission. » « Sacré nom d'un chien, j'espère qu'elle indique dans son manuscrit que je l'aime passionnément. » « Écoute, ta compagne va confier cet œuf au sage de sa colonie afin qu'il veille sur lui pour les 1000 ans à venir. Nous savons que plusieurs guerres éclateront dans à travers le monde et que cet œuf finira par être écrasé par toutes sortes d'armées si nous le cachons simplement quelque part en Égypte ou ailleurs. Là-haut, sur les hautes cimes de l'Himalaya, il ne risque rien. » Après 1000 ans, qui devra le reprendre? Mais c'est toi. Je pense que tes maîtres t'ont déjà fait accomplir cette mission de retrouver l'œuf et de le déposer dans le couloir lumineux afin qu'il le fasse éclore au début de l'humanité. Cette mission est déjà accomplie, sinon l'humanité n'existerait pas encore. Entre-temps, la prêtresse a-t-elle mentionné ce que je ferai au cours des longues années qu'il me reste à vivre dans votre époque? On dirait bien que tu vas voyager énormément, lui répondit le maître en riant de bon cœur. La prêtresse ne vous a pas dit si j'accomplirai d'autres missions. Ce n'est pas la prêtresse qui nous a révélé ton futur, mais tes maîtres de l'invisible. Bon, je n'insiste plus, puisque je perdrai mon temps à vous poser d'autres questions se rapportant à mes futures missions. Tes maîtres tiennent cependant à te dire qu'ils feront apparaître le couloir de l'intemporel dans une ruelle située derrière le temple de Sérapis. Donc, c'est à toi de revenir à Alexandrie lorsque tu auras terminé tes autres missions en Égypte. Derrière le temple, dites-vous. D'accord, j'y serai si Dieu le veut. Mais pour en revenir au miroir, la prêtresse vous a-t-elle expliqué ce que vous devrez en faire? Le sage roupina d'un large signe de tête avant de répondre. « Oui, mais nous n'avons pas le droit de te dire où nous devrons l'enterrer afin que d'autres missionnaires puissent s'en servir au cours de l'histoire de l'humanité. » Après un modeste repas partagé joyeusement autour du feu, les sages reprirent le chemin d'Alexandrie en compagnie du messager. Méléos et Etna prirent une autre route qui devait normalement les conduire au Caire. En réalité, nos amis n'avaient pas l'intention d'aller là-bas, mais simplement s'éloigner davantage d'Alexandrie et des autres endroits habités. Etna lui dit en marchant à ses côtés, « Tu sais, il existe vraiment peu de chances que tu revoies les sages de leur vivant. Je ne sais pas si je vais les revoir dans une autre aventure dans le temps, mais nous demeurerons en contact dans les temporels. » Ainsi, il se peut que tu sois un peu triste de me quitter, puisque nous nous reverrons sans doute uniquement dans l'intemporel. Un peu triste, s'exclama son amoureux d'un air ébranlé, et moi qui croyais que tu m'aimais passionnément comme moi. Mais je t'aime passionnément, puisque je te laisse vivre sans prendre possession de ton cœur. Sur notre planète, il n'y a pas d'hommes et de femmes qui accepteraient de vivre ensemble au-delà d'un certain temps. Notre société ignore le mariage et même la famille. Un enfant vit là où il aime la compagnie des autres. Il est considéré comme le frère et la sœur des autres enfants de la planète. Et si un enfant n'a pas de véritable parent? Mais si, voyons, son père est l'homme et sa mère est la femme, ses frères et sœurs sont tous les autres enfants ouarciens. Je pense que les Terriens trouveraient vos mœurs fort étranges. C'est également ce que nous pensons d'eux. On dirait qu'ils font tout pour créer la division en distinguant des races, des clans, des langues, des religions, des rôles accordés à l'enfant, à l'adolescent et à l'adulte. Vous recherchez l'harmonie parfaite entre un certain nombre d'individus qui détestent finalement tout ce qui n'est pas comme eux. Les ouarciens aiment se faire aimer sans plus. Ils ne peuvent jalouser quelqu'un qui aime toutes les femmes, par exemple, comme toi, je pense. C'est la jalousie qui empêche quelqu'un de se valoriser auprès des autres, car chez nous, il suffit d'un simple sourire pour se faire aimer et pour tout le reste. On ne sourit pas des lèvres, mais des yeux et par le toucher. Vous souriez par le toucher? Oui, touche-moi la main et je te dirai si tu me désires ou si tu me détestes. Je t'aime, lui dit son amoureux en lui caressant la main tendrement. Oui, je le sais par ton toucher, il ne ment pas comme les mots d'amour. Etna lui fit un large sourire avant de lui montrer un coin du ciel. On aurait dit qu'une petite toupie lumineuse s'amusait à tourner autour d'un cumulus. « C'est un vaisseau ouarcien ?» lui demanda son compagnon d'une voix excitée. « Je devine, par ton sourire, que c'est non seulement un navire spatial des gens de ta race, mais qu'on est également à ta recherche. » « Oui, ils m'ont déjà trouvé grâce à ma plaque numérique, qui va bientôt recevoir leurs instructions. »« Pour te récupérer seul, n'est-ce pas ?» lui répondit son compagnon en retirant lentement sa main de la sienne. « Mais, Léos, ils me disent que nous sommes trois, et ils veulent savoir s'ils doivent nous prendre à bord après avoir calculé nos poids exacts. » Mais nous ne sommes que deux, ma douce Etna. Ils doivent sûrement prendre ton œuf pour un autre passager. Non, ils me disent qu'ils vont devoir me retourner dans la colonie de l'Himalaya afin d'y accoucher dans quelques mois. Tu es? Oui, j'aurai un petit terrien de toi. Péchel l'embrassa tendrement avant de lui caresser paternellement le ventre. Pourtant, Etna ne voulait pas compromettre sa mission. Et il lui dit, « Je ne te demande pas de m'accompagner pour prendre tes responsabilités de père naturel, puisque de toute façon, je ne vivrai pas avec toi, et tu le sais. Notre enfant fait déjà partie de la communauté ouarcienne. Je sais ce que tu penses, mais ne crois pas qu'il sera moins heureux du fait qu'il est issu d'une union entre un terrien et une ouarcienne. Nous ne faisons pas ce genre de distinction entre nous. » Il vient de mon ventre, et c'est tout ce qu'il faut pour qu'il soit accepté par tous les ouarciens. Tu ne lui diras jamais qui était son père, alors? Si, je lui dirai également pourquoi tu ne pouvais m'accompagner dans notre colonie. Il saura que tu es toi-même un extraterrestre qui accomplit des missions à travers différentes époques. Je sais déjà que c'est un garçon que j'aurai de toi, puisque les mères ouarciennes savent cela dès les premières heures de la conception. Je lui donnerai le nom d'Alexandre pour qu'il sache qu'il a été conçu à Alexandrie. Je pense qu'il est possible que tu le rencontres au cours de tes aventures dans le temps futur. C'est un vœu que je fais et non une promesse. » La femme caressa ensuite l'œuf en promettant à son amoureux de le remettre personnellement aux membres du grand conseil de la colonie. « Ne t'inquiète surtout pas pour cet œuf qui sera gardé jour et nuit dans un incubateur. Nous verrons à te le faire parvenir au moment où tu devras le retourner dans le couloir intemporel. » Etna, je t'aime, se contenta de lui répondre son pauvre amoureux qui examinait à présent le vaisseau spatial se poser lentement sur le sable chaud. Il émettait des petits sons harmonieux en soulevant un nuage de poussière. « Je ne te demande pas de m'oublier, mais simplement de conserver dans ton cœur les doux moments que nous avons passés ensemble. on s'est aimé, et c'est cela qui était merveilleux. » La Ouertienne sortit ensuite la bourse de 1000 pièces d'or et la plaça tendrement dans la main de son ami intime en lui disant d'une voix incitative, « Tu en auras besoin au cours de tes nombreuses années qu'il te reste à passer en Égypte. Tu sais, sans toi, je serai aujourd'hui l'esclave de l'un des amis du maître Ali. Je ne l'oublierai jamais, et mon fils sera vraiment fier d'avoir un père naturel aussi courageux. Je ne sais plus si je dois pleurer ou me réjouir de te voir partir. Il t'attend maintenant. Tu sais qu'ils prennent beaucoup de risques en atterrissant ici, car la poussière que tu vois au loin derrière les collines est celle d'une caravane qui se rapproche. » Encore des vendeurs d'esclaves, lui demanda la femme d'une voix amère. Non, je crois que ce sont des marchands de chameaux qui se rendent au Caire. Je vais me joindre à eux, puisque mon cœur me dit que je dois les suivre sans crainte. C'est ainsi que la jolie Ouertienne fut bientôt auprès des siens, après avoir embrassé son héros. Le vaisseau remonta rapidement dans le ciel en demeurant face au soleil afin de passer inaperçu. Son métal se confondait avec l'astre du jour lorsqu'il est à son zénith. Notre homme ne tarda pas à rejoindre la caravane et se fit aussitôt confier ce travail de surveiller le jeune fils du propriétaire de chameaux, qu'on soupçonnait de piquer les bêtes pour semer la pagaille entre elles. Les chameaux se dispersaient un moment et les nomades perdaient beaucoup de temps à les ramener. Ce travail ne déplaisait pas du tout à notre homme, puisqu'il se fit rapidement l'ami du bambin. En réalité, ce garçon cherchait uniquement à attirer l'attention, mais lorsque Pêchel s'occupa de lui, il ne chercha plus à piquer les pauvres bêtes avec un petit bâton pointu. Nous ne raconterons pas les autres aventures que vécut notre missionnaire en Égypte. Disons simplement qu'il devint un jour un prospère marchand d'épices et qu'il voyagea sur toutes les mers connues de l'Antiquité. Lorsqu'il fut temps pour lui de retourner à Alexandrie, il donna tous ses biens à des proches amis et se mêla à un groupe de pèlerins qui venaient du Caire avec leurs malades pour se rendre à la fontaine du dieu buveur, située à Rakotis. Pêchel était loin de se douter que c'était lui que ces gens venaient invoquer à l'ancien bain public transformé en lieu de culte par les fidèles des Batlaïs. Celui-ci était décédé depuis plusieurs années, tout comme les sages et les anciens dirigeants d'Alexandrie. Mais grâce à l'imagination populaire, Évatlès créa un véritable mythe autour de Méléos Denlès Pêchelis. Cet homme au miroir fantastique l'avait profondément marqué, et pour tout dire, le messager le considérait comme le libérateur des esclaves par excellence. Évatlès lui fit dresser naïvement une statue au milieu du bassin dans lequel son héros chuta lorsqu'il arriva à Alexandrie. Comme personne ne retrouva la trace des esclaves qui l'auraient fait fuir, et on en déduisit simplement qu'il les conduisit dans le ciel. Il faut avouer que même des puissants notables finirent par croire que ce buveur était vraiment une divinité pour boire autant de vin sans se saouler, et surtout, pour tenir tête aux dirigeants qui n'osaient à son époque lui poser la moindre question sur ses origines. C'est également fort probable que les notables Bruchium, Eider et Batlès à diviniser le missionnaire de l'intemporel, puisque c'était plus facile pour eux d'expliquer leur incapacité de le faire arrêter. En effet, seul un dieu pouvait, selon eux, leur échapper de la sorte. Ils firent même installer une fontaine en forme de tonneau de vin afin d'indiquer aux visiteurs l'emplacement exact où apparut ce phénomène venu du ciel. Certains fidèles étaient convaincus que ce dieu remonta au ciel par cet endroit en compagnie des esclaves qu'il venait de libérer. Quelques jours seulement après la mort de Batlès, l'un de ses disciples en profita pour prendre en main la communauté de fidèles. Au début, les membres se contentaient de venir se recueillir autour du bassin en implorant le dieu buveur de libérer tous les esclaves de la cité. Plus tard, on apprit que certains malades furent guéris en buvant l'eau de cette fontaine. On peut s'imaginer ce qui arriva par la suite lorsque des zélés profitèrent de ces miracles pour s'enrichir rapidement. Pêchel arriva un après-midi où des centaines de pèlerins aidaient des malades à cueillir de l'eau dans le bassin. Il fallait évidemment donner une aumône avant d'avoir le droit de boire cette eau miraculeuse. Méléus d'Enlore Péchel secoua tristement la tête en découvrant ce culte absurde qui lui était adressé, mais ne fit rien pour l'interdire, puisque personne n'aurait voulu croire qu'il soit le même homme qu'on vénérait sans vouloir le connaître personnellement. Il préféra se retirer dans le temple du dieu Sérapis, afin d'y attendre l'heure de son départ. Le lendemain matin, il sortit discrètement du temple pour emprunter une étroite ruelle qui se trouvait derrière celui-ci. Il fit bientôt un large sourire en voyant le couloir lumineux apparaître devant lui comme par enchantement. Il le traversa sans remarquer la présence d'un pauvre chien qui fuyait à toute allure dans la ruelle pour éviter les flèches et les lances que lui lançaient les serviteurs qui tentaient de l'abattre. Le chien lui trouva tout à fait naturel de sauter dans le couloir de l'intemporel juste au moment où celui-ci allait disparaître. Péchel se retrouva donc avec un compagnon de route sans qu'il le veuille, et le couloir les emporta tous les deux vers une autre époque.